I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. C'est Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'un millésime de cinéma avec un invité. Et ce mois-ci, mon invité est illustratrice, graphique artiste, graphique designer et certains diraient même magicienne, tant elle sublime dans ses portraits pop et fabuleux les personnages iconiques du cinéma et des séries, Catwoman, Indiana Jones, Princesse Leia, Jon Snow... Elle a également signé l'affiche du célèbre Festival de Cannes à deux reprises, rendant hommage à Belmondo, Anna Karina et Agnès Varda. Cette personne décidément talentueuse, c'est Flore Maquin. Salut Flore.
Salut Thibaut.
Comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Eh bien écoute, ça va très très bien. Je suis très très heureux de t'avoir dans l'émission, puisqu'on a... Nous, on se connaît déjà de l'extérieur, on a déjà pu collaborer ensemble, notamment sur des projets autour de Terminator et d'autres choses. Mais en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir dans l'émission pour parler d'une année de cinéma passionnante. Moi, j'avais une question, du coup, j'ai dit graphique artiste, illustratrice. Comment toi, tu te définis?
Ah bah, c'est dur pour
moi. C'est compliqué, ces termes-là.
C'est en plus, c'est un métier un peu moderne, on va dire un peu nouveau. Enfin, on remarque les affichistes, il y en avait plein avant, mais j'ai un peu du mal à m'utiliser un intitulé. Mais
oui.
Bon, c'est... J'ai l'impression d'être une artiste sur ordinateur, donc graphique artiste, c'est un peu le terme anglais, et les gens me disent « non, mais pas les termes anglais, mais c'est, on va dire, ouais, artiste sur ordinateur, maintenant je dis artiste. »
Ouais,
mais je m'en bats plus maintenant.
Ça englobe tout. Alors effectivement, pour les gens qui ne te connaissent pas, donc Flore Maquin, vous pouvez aller regarder sur internet, t'as un style assez particulier, en tout cas assez reconnaissable, tu fais du coup ces portraits de héros, héroïnes, qui est ta marque de fabrique, ça vient d'où cette marque de fabrique, cette envie de faire ces portraits-là, plutôt qu'autre chose?
C'est une bonne question, ça m'est venu naturellement parce que je pense que j'ai un truc justement avec les regards, les personnages, tout ça. Et j'ai commencé à le faire, mais je pense inconsciemment. Je me suis centré beaucoup là-dessus et en fait, au fur et à mesure d'en faire des dizaines et des dizaines, c'est vrai que les gens m'ont dit « Ah, mais tu fais beaucoup de portraits !» Bah, effectivement, c'est ce que je fais le plus. Après, j'adore quand je vois des affiches, paysages, enfin, des affiches vraiment avec plein de détails, tout ça. Mais ce qui me parle le plus, c'est vraiment les portraits, quoi. Je sais pas, j'aime les émotions que ça transmet.
Mais c'est vrai qu'après, tes autres travaux, on va dire, tes affiches de Festival de Cannes, avec Agnès Varda perchée comme ça sur sa caméra, ou Belmondo et Karina, c'était aussi des travaux assez particuliers, assez sublimes. T'avais fait une affiche avec Alain Delon également, pour une édition,
voilà.
C'est ça, ouais.
C'est ça, ouais, y avait une troisième affiche, enfin, une deuxième affiche pendant l'année d'Agnès Varda, il y avait justement l'affiche pour... Alain Delon, ouais.
Voilà, une œuvre diverse et variée et formidable que moi j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à découvrir le travail de Flore sur internet. Alors, on l'a évoqué, ce mois-ci, on va se promener ensemble en terrain connu pour bon nombre d'auditeurs et partir à l'assaut d'un millésime emblématique des années 90. Entre les blockbusters titanesques et les volcans grondants, le cinéma de cette année-là livre son plus beau palmarès avec des œuvres cultes venues de tout pays. Un véritable festin pour cinéphiles, plein d'optimisme et d'imaginaire avant un 21e siècle qui sera, sur l'écran et en dehors, beaucoup moins solaire. Bref, aujourd'hui, on parle de l'année 1997.
Yeah. Yeah. Autant des jupes culottes, j'étais cool à l'école, manger à la cantine, y avait pas de vache folle à la télé. J'étais panada yato dans la rue. C'était l'aiguiseur de couteau. Le must à l'époque était le pas de bref. Folon, Gilles Villeneuve et Michel Polnareff. Créateur d'avant-garde, avant Gaultier, je choquais. Les Blue Jeans avaient quatre ourlets. Tu peux me nommer rappeur nostalgique, néo-romantique, aux accents bucoliques. Avant pour les gosses, les grands étaient des mythes. Regarde, maintenant c'est les parents qui flippent. Les temps changent.
Les temps changent.
Les temps changent.
Les temps changent, chanté par MC Solar. On écoutait ça en 1997. En tout cas, moi, je l'écoutais à fond puisque mon grand frère avait l'album Paradisiaque. Et du coup, je l'ai écouté quand j'étais entre 6, 7, 8 ans, en boucle. T'écoutais quoi, toi, en 97, Flore, tu te souviens?
Oh là là, c'est...
On a parlé des
question.
Spice Girls,
oh ouais,
avant.
Spice Girls, ça, c'est sûr et certain. J'étais fan du film. Donc, ouais, Spice Girls,
ah,
et toute la panoplie. Parce que j'avais 97, j'avais 7 ans. Donc, je pense que...
Les singles et tout, ouais.
Ah,
la belle
oui.
époque. Pourquoi avoir choisi cette année-là, 97, justement, Flore? Parce que, je le rappelle, je demande à l'invité de choisir l'année dont on va parler.
Alors, en fait, j'ai fouillé. Je savais que je voulais proposer années 90, c'était sûr. Enfin, une des années 1990. C'est vrai que je voulais proposer mon année de naissance, qui était 1990, mais j'avais été déjà prise. Il y a beaucoup de bons films. Mais j'ai regardé l'année où il y avait plus de films qui me parlaient. Justement, en 97, là, je suis sur un panel
là, c'est ouf,
de films, franchement, qui me parlent. On est sur de l'action, on est sur de la science-fiction, tout ça. Et en fait, je me dis, oh là, 97, c'est bon, c'est réglé. Et franchement, je suis honnête avec toi, j'ai regardé toutes les années 90 pour voir ce qui me parlait le plus. Et là, je dis, bon, allez, 97, c'est vendu, c'est celle-là.
Alors, 97, c'est l'année de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, de l'arrivée de Tony Blair au pouvoir, de la mort de Lady Di et de Jan Kalman, l'être humain le plus vieux de l'histoire. C'est l'année aussi de la sortie du livre Harry Potter à l'école des sorciers, des jeux vidéo GoldenEye sur Nintendo 64 et Final Fantasy VII sur PlayStation, et du début des séries South Park et Buffy contre les vampires.
Bien sûr.
Enfin, c'est aussi l'année où un petit site dépose officiellement son nom de domaine, www.google.com. Mais 97, c'est aussi et surtout du cinéma, et on est là pour ça. Cette année-là, tout le monde va bien sûr voir Titanic de James Cameron, Le Monde Perdu de Spielberg et Men in Black. Le public savoure la diversité du cinéma mondial avec En chair et en os d'Almodovar, Hanabi de Takeshi Kitano, The Full Monty ou encore La Vérité si je mens en France. L'animation est grandiose avec Princesse Mononoke, Anastasia, Hercule et Perfect Blue de Satoshi Kon, quand personnellement je frémis encore de ma vision de Funny Games de Michael Haneke. Mais cette année-là, on l'a dit, un film mastodonte prend toute la place. Il est signé par l'un des plus grands réalisateurs de son temps et va marquer les esprits et l'histoire du cinéma. Un événement à l'image du film, de son histoire, de son ambition et de son titre, Titanic. Cette musique évanescente, c'est celle de James Horner et de la bande originale du film Titanic, qui va être au cœur de notre premier thème. Alors Titanic, on va le rappeler, mais vous le connaissez tous, c'est un film réalisé par James Cameron avec Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Billy Zane, et ça raconte l'histoire en 97 justement d'une équipe d'explorateurs qui va fouiller l'épave du Titanic en quête d'un diamant bleu qui se trouvait à bord à l'époque. Et l'une des rescapées du naufrage, âgée de 102 ans, va se rendre sur place et va évoquer avec l'équipe notamment ses souvenirs de l'époque du naufrage, de la véritable histoire du naufrage de Titanic, et va raconter une histoire méconnue, personnelle, intime, qui va être le cœur du film. Toi, tu te souviens, Flore, de ta première vision de Titanic, de ton premier souvenir peut-être de Titanic?
Oui, je pense que je l'ai vu au cinéma, et je pense que j'ai dû voir d'autres films au cinéma avant, des films pour enfants, mais c'est mon premier souvenir de cinéma.
Parce que là on en parlait hors antenne avec Antoine. Effectivement, est-ce que tu allais le voir 10 fois au cinéma comme bon nombre de gens cette année-là?
Non, mais j'aurais aimé. Mais dis-toi que je me rappelle, je me vois dans une boutique acheter un livre sur le Titanic, enfin sur le film Titanic. Et je me rappelle, je connaissais tous les noms, Kate Winslet, Buketer et tout ça m'est resté, quoi, vraiment. Jack Dawson et tout, il y avait toutes les explications, le making of, tout ça, les maquettes et tout. Enfin, je l'ai encore, ce livre.
C'est vrai que c'était vraiment un film événement. Et puis c'est vrai que c'est un film qui est il dure 3h15, c'est quand même un gros morceau. L'un de mes premiers souvenirs, c'est que je me souviens avoir vu le film en salle et de m'être dit mais c'est possible de faire des films aussi longs, de me dire mais c'est genre ça doit être le film le plus long de l'histoire du monde, en fait. Tu vois, il y a un côté 3h15, 2h c'est déjà beaucoup quand t'es petit, alors 3h15 t'es là genre, mais en fait ils doivent le couper en deux, il y avait un côté, alors que maintenant bon, des films, toi, Avatar 2 est ressorti, il dure 3h10 par exemple.
C'est plus commun maintenant,
souvenir effectivement d'un film extrêmement long, et tu l'as dit, bon, c'est un film imposant et c'est un peu le film de tous les records. 200 millions de dollars de budget à l'époque, c'est le plus gros à l'époque de l'histoire du cinéma. Il va avoir 11 Oscars pour 14 nominations, c'est également le record ex aequo avec Ben-Hur et Le Retour du Roi. Et en termes de box-office dans le monde, il fait 600 millions de dollars aux États-Unis, ce qui est un record à l'époque, et 1,8 milliard dans le monde entier, ce qui est évidemment le record de tous les temps en 97, et qui est encore l'un des films les plus populaires, on va dire, all time, puisque je trouve qu'il est encore quand même bien placé. Il est ressorti plusieurs fois, il est ressorti en 2012 en 3D, En 2017 pour les 20 ans et après pour les 25 ans, etc., etc. Et c'est vrai que là, on est en 2023, c'est les 25 ans. Il ressort au cinéma, il me semble, là en février.
Oui.
Est-ce que tu vas le retourner le revoir au cinéma Titanic ?
Non, parce qu'il est passé il n'y a pas longtemps à la télé. Donc je suis un peu partagée, mais parce que mes amis, j'ai des amis qui sont inscrits pour aller le voir. Bon, vraiment, ouais. Ils vont y aller, ils sont au taquet, quoi. Mais
c'est un événement encore 25 ans après, ouais. Quoi.
Mais parce que j'ai un ami justement qui a 25 ans, je crois, et qui l'a pas vu au cinéma. Donc justement, c'est l'argument qu'il m'a donné, c'est non, mais je l'ai pas vu au cinéma moi, donc je veux le voir en fait. Et il est fan du film aussi accessoirement. Mais
alors là, effectivement, on voit que c'est un succès et dans les prix et public et critique. Et là, on en parle. Bon bah Titanic, effectivement mémorable. Pourtant à la base, c'est un projet qui est casse-gueule pour James Cameron, c'est un projet gargantuesque. On a vu 200 millions de dollars de budget, le tournage est compliqué, il dure 160 jours au lieu de 120-130. James Cameron est à ça d'être viré. La sortie, au début, le film il devait être sorti en juillet 97, et tu as même des affiches où il y a marqué Titanic, Summer 97 et tout. Il est repoussé finalement en décembre, où il sortira en décembre. Et j'ai lu des articles de l'époque. Ah bah Titanic, c'était la plaisanterie de l'époque. On pensait, tu sais, il y avait ce côté Titanic, en fait, il va chavirer, ça va être un naufrage comme le film dont il parle véritablement. Et pourtant, ça a été un succès fou. Comment toi t'expliquerais le succès fou de Titanic ? Pourquoi un film qui aurait dû forcément être un naufrage a aussi bien marché ?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur historique. Déjà, je trouve qu'il y a une histoire ancrée dans le temps. Hein. C'est vraiment, bien sûr, c'est une fiction, mais c'est inspiré de faits réels. Donc, moi, ça me fascine un peu cette histoire. On dirait un film en lui-même. Déjà, à l'époque, quand on dit ce naufrage-là, c'est quand même assez fou. Et beaucoup de gens sont décédés. Enfin, il y a un truc. Ils ont mis longtemps avant de retrouver le bateau aussi. Ça a duré vraiment plusieurs dizaines d'années avant qu'ils retrouvent même l'épave. Et je trouve qu'il y a vraiment une curiosité un peu d'être immergé, sans mauvais jeu de mots, dans l'histoire. Et c'est vraiment ça, on a l'impression de vivre le moment comme il était réel. Je trouve qu'il y a une réalité que James Cameron a traduite à travers ce film. Et tous les moyens qui ont été mis en place. Et puis franchement, il y a une perfection dans ce film. Il y a vraiment une volonté de tout reproduire. Mais tout, même quand on voit les détails, la décoration du bateau, enfin je sais pas, tout est réfléchi à un point de perfection. Quoi. On est sur vraiment... là sur de la perfection pour moi.
C'est vrai qu'adapter une histoire vraie qui est en elle-même complètement folle, déjà c'est la promesse d'un spectacle jamais vu à l'écran et comme tu l'as dit, ben, les moyens sont colossaux à l'époque. Je sais que pour le tournage ils ont fait
titanesque
titanesque, et c'est vrai qu'ils ont fait une maquette du paquebot sur les côtes mexicaines pendant le tournage pour faire quelque chose d'extrêmement précis. Est-ce que toi tu parlais de détails, tu parlais de ces scènes extrêmement fortes qui restent en tête, toi est-ce que toi t'as une scène particulière de Titanic où tu te dis ça, c'est ma scène, ça. Ça, j'aime bien ce petit moment, ce regard, cette phrase.
Alors, il y a un moment, mais très court, qui dure quelques secondes, où justement, les fusées de détresse sont envoyées vraiment dans le ciel. Et on voit la lumière sur les visages des gens, et les gens regardaient en fait la fusée. Et je sais pas pourquoi, c'est vraiment un moment qui me parle où, on se met à leur place. C'est que là, ça y est, il y a un problème, il y a vraiment un danger qui se passe, et c'est là où les gens comprennent que bon, le bateau va vraiment couler. Et je suis persuadée qu'à l'époque, quand on leur a dit « non, le bateau va couler », que les gens « non, mais c'est bon, prends le temps » et tout. Et c'est là où ça change dans leur tête. Et je sais pas pourquoi, moi je me projette à leur place, quoi. Je me dis, oh, putain, comment j'aurais réagi, moi, à leur place, quoi.
Bah, toi qui aimes bien les visages et les yeux des personnages, voir peut-être une scène avec, comme ça, ces fusées de détresse qui se reflètent dans les yeux et les visages des personnages, c'est peut-être ça qui te touche, toi. Comme tu es naturellement attiré par ça, effectivement, ça fait sens. Tu l'as dit, c'est une histoire vraie, c'est un mélange c'est un film historique, mais c'est aussi une romance, et c'est un film, on va en parler, catastrophe en soi. C'est-à-dire que t'as vraiment, on dirait, un buffet pour tout le monde, quoi. C'est genre si t'es un jeune qui aime bien les effets spéciaux, des choses un peu sensationnelles, bah tu vas le voir parce qu'il y a ça. Si t'aimes bien on va dire plus la romance, tu vas voir ça. Si t'es plus un historien qui aime, comme tu l'as dit, des choses précises, ah bah tiens, un événement fou qui c'est, on dirait que c'est vraiment le film pour tout le monde. Peut-être aussi ça qui explique le succès du film, c'est que c'est un film vraiment pour tout le monde. On oublie aussi peut-être quelque chose, c'est que c'est un film qui est brillamment écrit. C'est-à-dire que moi j'ai revu le film juste avant qu'on enregistre là et on oublie que le film en fait c'est pas le début, c'est pas l'histoire de Rose et Jack sur un bateau, c'est l'histoire de scientifiques qui vont dans le bateau et en fait tout le film c'est une vieille personne qui nous raconte ses souvenirs et en même temps ça parle de la lutte des classes, ça va parler de féminisme, ça va parler de quelque chose d'assez fou, c'est que le personnage principal de Titanic c'est pas DiCaprio. C'est Rose DeWitt Beaketer.
C'est Kate Winslet, tout par d'elle.
Avec un personnage féminin extrêmement fort et passionnant et très bien tissé et très bien écrit. Parce que tu as des scènes, tu en parlais de scènes qui nous ont marqué. La scène où elle est avec sa mère qui lui explique qu'ils n'ont plus de thunes et qu'elle va devoir se marier avec le connard qui la traite comme une moins que rien. Enfin, tu as plein de scènes comme ça. Ah bah tiens, vous n'êtes pas venu me voir hier soir. on est presque mariés, je pensais que vous... Enfin, tu sais, des trucs, quand on est adulte, quand on est enfant, on tilte pas, mais quand on est adulte, on écoute ça, on fait... Ah oui, d'accord, donc en fait, là, ça parle de viol ou d'harcèlement ou d'espèce de relation toxique, ça parle de... C'est extrêmement dense, je trouve. Enfin, moi, c'est ça qui m'a marqué.
T'as raison, et en fait, c'est vrai que ça remplit... ça coche toutes les cases. Vraiment, tous les aspects... Enfin, c'est vrai qu'il est très riche, mais pour moi, c'est pour ça que ça rejoint le côté parfait. Je trouve qu'il y a vraiment... Il y a une étude de tout derrière ça. Il y a une temporalité qui est ancrée à la fois aujourd'hui, avec justement le début du film, et puis après, il y a des retours en arrière. Enfin, je sais pas, il y a tout qui est tellement bien écrit.
Cool, on va dire 25 ans après. J'ai l'impression, moi en 97, quand Titanic sort, donc on l'a dit, il y a des décors colossaux qui sont construits, il y a des centaines de figurants. Voilà, donc c'est un tournage qui est fou en soi. Et c'est un peu pour moi, j'ai l'impression que la fin d'une époque, d'une certaine manière, parce qu'en fait des films comme ça après Titanic, il n'y en aura plus trop. Et en même temps, ce genre, le début d'une autre, puisque les méga blockbusters de 200 millions de dollars, et c'est le premier à faire ça, on va dire. Et de dire, bon, en fait, c'est possible. Et du coup, à la suite, tu vas avoir des films qui vont pouvoir claquer une somme hallucinante et se dire, mais en fait, regarde, on peut faire 2 milliards de dollars au box-office. On est 25 ans après. Qu'est-ce qu'il y a un héritier de Titanic aujourd'hui? Un film qui, depuis 25 ans, s'est hissé à sa hauteur ou a proposé quelque chose d'aussi fou?
Je pense pas, mais pas parce que les gens ne sont pas arrivés. Enfin, les autres films ne sont pas arrivés à sa hauteur, mais c'est plus. Je trouve que c'est un produit unique. Titanic. Je vois pas de. On peut pas arriver à sa hauteur. Enfin, c'est pas une question de comparer entre eux parce que je trouve que c'est un produit unique qui a su se ficeler tout seul. Et je trouve qu'il y a vraiment un début, un milieu, une fin dans ça. Il y a le scénario qui est parfait. Enfin, il y a tout qui est bien mis en place. Et je peux pas le comparer avec un autre film parce qu'il y a tellement une histoire propre et en plus, effectivement, avec le lien historique. On peut pas. Je pense qu'un autre film se démarquera pour son côté unique encore une fois. Je pense qu'il y a chaque film est propre en lui-même et que Titanic.
À côté, c'était one shot, même Avatar par exemple, du même réalisateur avec la même ambition, etc. etc.
C'est pas comparable effectivement parce que Avatar prend un autre angle et vraiment c'est une volonté de faire autre chose. Et puis le discours est pas le même, l'histoire est pas la même. Il y a une prouesse encore une fois technique, mais pour moi c'est pas comparable quoi.
Comme tu le dis, il y a dans Titanic un espèce de mélange d'histoire vraie et de romance et de spectacle qui est un espèce de cocktail un peu unique.
Ouais.
Dans ton travail, Flore, il y a beaucoup de héros et beaucoup de films. Mais j'ai pas vu Titanic.
Alors, détrompe-toi.
Détrompe-toi.
Parce que
j'ai mal regardé.
Non, parce qu'en fait, elle apparaît pas sur mon portfolio, mais j'ai fait une illustration pour le magazine américain Billboard. Et en fait, on est sur du kitsch, kitschou kitsch. C'est qu'il voulait mettre en avant, à travers un article, Céline Dion et la musique pour Titanic. Donc tu imagines.
C'est quoi Je me souviens plus de la musique de Céline Dion, c'est quoi?
Ah mince, j'ai plus le titre.
C'est quoi la musique de Céline Dion, Titanic? My Heart Will Go On. C'est là, genre, Winner Goal, non, c'est pas ça. Enfin. J'entends, il était là, genre, enfin, Céline.
Mais je te laisse imaginer l'illustration. Tu as deux visages. Donc, tu as le visage de DiCaprio, le visage de Kate Winslet. Et puis, au milieu, tu as Céline Dion qui chante avec micro, avec la robe qui s'envole. Et elle-même est sur le bateau Titanic. On est sur un truc.
Ah, c'est ouf. Alors, attends, mais.
Elle est pas dans mon portfolio. Peut-être que je l'ai mise sur Instagram. Attends, faut que je.
Ah, si, oui.
Tu l'as?
Ça.
Voilà. On est sur un truc encore. On voit pas le bateau en dessous, mais ouais, elle a la robe qui vole. Enfin, tu vois.
Elle est magnifique.
On est sur un truc un peu kitschou, mais bon, c'est Titanic, quoi. Enfin,
là,
ils m'ont dit.
J'avais de l'avoir en gros, c'est trop bien. Ah oui, d'accord.
Voilà.
Et du coup, je pensais que, ouais, du coup, en termes de personnage, je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire autour de Rose. Si tu leur faisais un portrait Titanic, tu ferais quoi là? Qu'est-ce qui t'inspirerait?
C'est une bonne question parce qu'il y a des affiches comme ça pour moi qui peuvent pas être reprises parce qu'elles sont déjà très belles à la base. Donc, c'est pour ça, il y a des films que j'adore où j'ai même pas essayé de refaire des affiches. C'est vrai que celle de Kate Winslet. De Kate Winslet uniquement.
De Kate Winslet, oui.
De Titanic, je sais pas, je trouve qu'elle est déjà suffisante et je faudrait que j'ai une très très bonne idée pour pouvoir m'attaquer à une affiche comme ça, quoi. Franchement, et je l'ai pas encore. Et puis je crois que j'aime pas vraiment chercher parce que je sais pas, je me dis que ce film là,
on n'y va alors, on n'y touche pas.
On n'y touche pas, il est parfait.
Mais il y a tellement d'éléments comme ça visuels. On peut repenser à la scène du dessin où effectivement DiCaprio est en train de la dessiner avec juste le diamant qui est une scène d'un érotisme complètement fou.
Il y a beaucoup
de motifs assez forts.
Ouais, voilà. Bon, avec le bateau, le cœur de l'océan, enfin plein de choses, l'iceberg un peu aussi.
Est-ce que tu avais cédé à l'époque à la DiCaprio mania?
Ah, je sais pas. Je pense que oui, parce que petite midinette de 7 ans à l'époque, je pense que oui. Mais je pense que j'étais surtout triste qu'il soit mort, quoi. C'était surtout
oh
ça, quoi.
Là,
mais j'ai pas le souvenir d'avoir été amoureuse de lui, mais c'est plus en mode non, mais c'est nul, pourquoi il meurt? Voilà, c'est plus ça, quoi.
Pour les jeunes qui nous écoutent, c'est un peu le Timothée Chalamet de l'époque. Et Kate Winslet, c'était un peu la Zendaya de l'époque. Mais voilà, maintenant, c'est autre chose, d'autres générations, d'autres stars. Mais enfin, voilà. Bah voilà, effectivement, on s'est rendu compte que bah, 25 ans plus tard, peut-être Titanic n'a pas d'héritier.
Je suis honnête avec toi, la bande-son du film, je l'écoute encore aujourd'hui quand je bosse. Enfin, genre, je la trouve exceptionnelle. Donc c'est vrai qu'encore une fois, ça rejoint la perfection qu'on disait là. Et je revis tout le film à travers la musique. Franchement, je la mets, je travaille. Et c'est cette scène. Il y a une musique qui commence à s'accélérer à la fin, quand vraiment le bateau commence à couler, tout ça. Je revis le film, quoi. Et c'est vrai qu'il y a peu de films qui m'ont autant transporté. Bon, il y a des tas de bons films, hein, mais je veux dire, celle-là, ce film-là, avec cette bande-son-là.
Et c'est vrai qu'en l'ayant revu, c'est vrai que c'est un film très mémoriel dans sa structure. C'est vrai que tu as plein de micro-scènes. De gens qui sont bloqués dans un coin, d'une mère qui parle à ses enfants, comme tu l'as dit, de vignettes, un peu comme des clichés. Et ça fait un film très choral où tu vas avoir des riches qui attendent que la vague les transporte, un couple de vieux, tu te souviens ce couple de vieux sur le lit qui attend la vague. Enfin, t'as plein comme ça de petites vignettes et ça fait un film très, très mémorial. T'as l'impression d'être dans un souvenir, quoi.
C'est vrai que chaque scène, il y a beaucoup de scènes fortes, en fait, vraiment. Mm. Et je fais une petite parenthèse, mais justement, tu parlais de la mère qui couche ses enfants pour leur dire bonne nuit. L'actrice, elle te parle ou pas?
Oui.
Ah.
C'est la maman de Terminator 2.
Oui.
Et c'est la... C'est comment elle s'appelle
dans
Alien.
Ouais, Aliens, ouais.
Mais voilà.
Ah, ben, j'ai oublié son nom de scène.
C'est l'actrice. Mais oui, je l'ai vu, j'ai fait « Ah ben oui, c'est vrai que c'est la maman et tout. »
Ah ben, pour moi, c'est un caméléon, cette femme. Genre, franchement, exceptionnel. Donc, voilà.
Ah, elle a trois rôles formidables, là. C'est formidable. Merci pour cette anecdote forte. Voilà qui conclut parfaitement notre premier thème sur Titanic. Il faudrait une émission dédiée autour du film, tellement ce film est titanesque. Mais on a parlé de son effet à l'époque, de la mania que ça a créé, de 25 ans après, qu'est-ce qu'il en reste. On a parlé quand même de pas mal de choses. Et on va continuer notre tour du monde de l'année 97 de cinéma avec Flore Maquin, avec le deuxième thème. C'est parti.
C'est la vision la plus effroyable que vous aurez jamais. Et peut-être la dernière. Dans la ville du Pic de Dante, un volcan change la nature en cauchemar.
Emma !
Pierce Brosnan, Linda Hamilton.
Mon Dieu !
Dépêchez-vous !
Stop !
Le Pic de Dante. La pression monte. L'explosion est pour bientôt.
L'explosion est pour bientôt. Mais cette voix, elle est formidable.
Oui.
J'ai vu que j'avais le choix entre deux, la bande originale, la bande annonce en VO, la bande annonce, j'ai vu la bande annonce VF. Mais oui, formidable cette voix. Alors je ne sais pas si vous avez, chers auditeurs, le nom de la personne qui fait la voix de cette bande annonce. S'il vous plaît, passez l'info, je le veux dans l'émission. Il a une voix formidable.
On imagine donc... parler tous les jours, c'est comme ça.
Bonjour, je voudrais un croissant.
Et une baguette pas trop cuite. Et c'était donc la bande-annonce française du film Le Pic de Dante, puisque au-delà de Titanic, 97, c'est aussi une grande année de séisme, de tsunami, de volcans grondants et de films catastrophes. Avec, en 97, tenez-vous bien, tous ces films-là, je commence. Astéroïde, Point d'impact, Inondation, Un fleuve en colère, Raz-de-marée, Alerte sur la côte, Turbulence, Le réveil du volcan, Volcano, Le Pic de Dante. Beaucoup de films sur les volcans. Mais donc, t'avais quand même c'est surtout le duel entre deux films de volcans. Donc, Le Pic de Dante avec Pierce Brosnan et Volcano avec Tommy Lee Jones, notamment. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Universal avait accéléré la sortie du film de Pic de Dante pour qu'il sorte justement avant, pour couper l'arbre sous le pied à Volcano, pour qu'il sorte avant et qu'il marche mieux. Et ça a marché puisqu'il a fait plus d'argent que Volcano. Et donc, tous ces films-là, c'est donc des disaster movies, des films catastrophes. Et 97, c'est une belle année, un beau millésime pour les disaster movies. Alors, juste pour mettre un peu de contexte avant qu'on en parle, les disaster movies, c'est donc un genre qui était d'abord très populaire dans les années 70. Tu avais des films comme La Tour Infernale, Le Pont de Cassandra, L'Aventure du Poséidon, etc., etc. Et en 90, dans les années 90, c'était aussi une grande décennie avec Titanic est un film, un disaster movie en soi. Et là, on l'a vu, c'est une année bien dotée. À ton avis, pourquoi un retour de popularité comme ça, un retour de hype du disaster movie dans les années 90
Je pense que c'est un lien peut-être avec les effets spéciaux. Je pense qu'il y, a, ah. y avait peut-être un début de justement, on peut se permettre de faire des choses assez grandioses maintenant. Je pense qu'il y a un lien avec ça. Et puis après, bon, les effets spéciaux vraiment sur ordi sont venus quelques années après. Bon, ça a commencé déjà là à ce moment-là. Mais je pense qu'il y avait vraiment un lien à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est. On a l'impression que oh, là, on peut se permettre des choses vraiment faites. Donc on va y aller, on va faire des volcans qui explosent, on va faire vraiment de désastres de partout. Je pense qu'il y a une curiosité un peu malsaine chez les gens. Moi, la première, de voir ce genre de choses, uniquement en fiction, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai
je précise, c'est gentil. Je ne regarde pas les vidéos YouTube de catastrophe.
Je voudrais que ça ne se passe qu'uniquement en film. Donc je pense que ça a peut-être un lien avec ça.
Oui, j'imagine que par exemple le succès, on a parlé de Terminator 2, mais Jurassic Park, des films qui ont comme ça montré que c'était possible. Bah du coup, quelques années plus tard, les gens ils disent, bah, en fait, on peut faire une fausse vague et un faux volcan qui arrive comme ça avec trois clics et on est bon, on est content quoi. Mm. Effectivement, ça doit être un peu lié. Moi, j'avais une théorie comme quoi. Tous ces films catastrophes, c'était aussi donc technologique, certes avec les CGI et tout qui s'améliore, mais aussi peut-être l'arrivée du 21e siècle. T'avais le côté, comme c'est bientôt l'an 2000, t'avais une peur de, ça se trouve, en l'an 2000, c'est la fin du monde comme Nostradamus, et en fait, on fait plein de films sur la fin du monde, ou en tout cas la fin de notre monde, et t'avais un côté, on se fait peur. Toi, t'es fan des disaster movies en particulier?
Ouais. Ah, dès qu'il y en a un qui sort, je suis comme une dingue. Vraiment, je les ai tous vus. C'est une catastrophe.
Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le genre? Pourquoi? C'est que tu parlais de curiosité morbide, mais c'est.
Je sais pas comment l'expliquer. C'est quelque chose que je. Enfin, que je verrai sûrement jamais. Comme je disais, je l'espère ne jamais le voir ça. Mais je veux dire, c'est. Je sais pas, il y a un truc. Il y a une curiosité quand même quand on voit comment fonctionnent les volcans, quand on voit, c'est assez fou quand même comme principe de base quoi. Donc je sais pas, de voir ça justement à travers les films qui sont souvent je trouve bien faits, hein, disaster movie, c'est peut-être pour ça, ça me plaire en fait. Avant je voulais étudier les volcans et tout, donc peut-être un lien
un
avec
truc
ça.
Un peu scientifique ou en tout cas curiosité scientifique quoi. Bah tiens, il peut se passer ça, il peut se passer ci quoi.
Ouais voilà. Et puis ça pourrait se passer dans un vrai monde.
Écoute, au moins tu sais quoi faire. Parce que t'as vu plein de films. Hop, tu vas dans une mine, tu vas dans un tunnel, tu vas dans un machin.
Quand Tommy Lee Jones y met les deux buses pour dévier la lave, voilà. Au moins on sait qu'il faut faire ça et le rapprocher vers l'eau. Voilà.
Oh là là, oui, voilà. Du coup, j'ai dû voir Volcano et le Pic de Danse pour l'émission. Et je dois dire que le Pic de Danse, c'est chouette. Et Volcano, c'est pas très bien. Je suis désolé, c'est vraiment pas très bien. Quoi. Moi, j'ai remarqué, du coup, en voyant tous ces films-là, que c'est toujours les mêmes. Il y a toujours les mêmes rôles. C'est un genre qui est très cadré parce que t'as toujours le rôle du scientifique qu'on n'écoute pas, de la mère de famille, du politique qui dit non, mais affolez pas la foule, machin. T'as toujours un enfant idiot qui, quand on lui dit de pas bouger, il va, ah bah non, il y a grand-mère dans son chalet à l'autre bout. Bah, du coup, il va grand-mère dans son chalet à l'autre bout. Voilà, super. T'as le rigolo, t'as toujours, on a un chien dans le studio, t'as toujours un chien à sauver.
Ah oui, mais moi je trouve que les chiens c'est les spoils en eux-mêmes parce qu'ils meurent souvent dans les films. Dès qu'il y a un chien.
Oh non, croquette ça. Et ben hop
ah. Oh, il est parti dans la lave ah. Non, mais franchement.
Jamais t'as des scènes où il part dans la lave. Ah, oh, il est mort
ça m'insupporte. Dès que je vois des animaux, je suis en mode non, mais c'est bon, il va mourir. C'est sûr, bon. C'est vrai, film années 90, les chiens meurent rarement.
Bah non.
Après, je trouve 2000, les chiens ils meurent.
Voilà, ah ouais.
C'est John Wick et compagnie.
Ça, les chiens qui meurent, c'est horrible.
Bah John Wick déjà. Bon,
ah oui.
Il y a une franchise après oui. Le chien qui meurt quand même. Mais je sais pas, même dans les séries où je sais pas, c'est vrai que j'ai pas d'exemple qui me viennent là, mais à chaque fois je ris de ça avec mes amis quand on regarde des films. Je dis, tu vas voir, le chien là, c'est un spoil, il va mourir.
La caution dramatique quoi.
Ouais. On a besoin de faire pleurer les animaux. Autant il y a 10 personnes qui vont mourir à cause d'un volcan en éruption, c'est pas grave. Mais si le chien il est là, je peux être sûr que je pleure.
Mais c'est le genre de scène typique et un peu emblématique de ces films des années 90 que tu retrouves assez régulièrement.
Ouais.
Avec, on l'a dit, le scientifique que personne n'écoute, le chien fou et l'enfant idiot. Ah oui, surtout, c'est toujours des beaux, comment dire, parce que c'est toujours des films qui te montrent comment fonctionnent les institutions quand il se passe des trucs. C'est genre comment fonctionne la police, les pompiers, la politique, etc., etc. Et c'est toujours des gens qui font fi de leurs différences pour finalement s'entraider, tu vois.
Oui, voilà, c'est ça, ouais. Oui, bah, dans Volcano, c'est typiquement ça, hein, le mélange des cultures au sein d'une ville et tout, ouais, vraiment la différence.
T'as une scène culte à la fin du film, un peu un spoiler, mais t'as un moment donné, donc, le volcan est terminé, la cendre est tombée sur la ville, tout le monde est épuisé, et t'as un policier qui prend un enfant dans les bras et dit « Bon, bah, on va chercher tes parents, tu sais à quoi ils ressemblent ?» Et l'enfant, il regarde, et tout le monde, ils ont tous le visage cendré, et il dit « Look at the people, they all look the same !» Et en fait, t'es là. En fait, Volcano, c'est un film contre le racisme. Et il y a la pluie qui arrive, et du coup, la cendre s'efface. Et t'es là, mais non, mais c'est pas possible.
Ah, ils sont allés loin quand même.
Ah ouais,
ils se sont dit, bon, faut qu'on cale un truc au milieu, là, un truc important.
C'était
voilà.
Formidable. Pour rappel, effectivement, en 90, on l'a dit, c'est une décennie de plein de disaster movies. Donc en 96, t'as Twister et Independence Day. Twister, formidable.
Oh, j'adore ce film.
Donc en 97, Le Pic de Danse, Volcano, Le Monde Perdu et même Titanic. En 98, t'as Armageddon. Deep Impact et Godzilla aussi. Mmh. Est-ce que toi, t'as un film catastrophe préféré, alors des années 90 peut-être, ou même au-delà? Quand tu dis comme ça, film catastrophe, on a aussi le jour d'après qui arrivait plus tard dans les années 2000, on a aussi...
Je les aime tous. Le Pic de Dante, c'est parce que je l'ai vu quand j'étais petite, donc quand je le regarde, je le vois encore avec des yeux d'enfant, pareil pour ouais. Volcano. J'en ai pas un préféré, je pense. Il y en a que j'ai revu plusieurs fois, genre 2012 et compagnie, parce que ah, c'était assez
2012,
grandiose
ouais,
aussi.
On avait ça aussi.
Par contre, San Andreas, celui, je l'ai vu quelques fois. Enfin, je l'ai vu une fois ou deux, pas plus.
Parce avec que tu parlais
des scènes un peu loufoques. Alors, je sais pas si tu vois la scène à la fin de San Andreas,
ouais.
où tu as The Rock avec sa famille et que sa fille lui dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Et il regarde, on va tout reconstruire. Et avec le drapeau américain derrière lui qui s'envole,
voilà.
Exactement.
Oh là là.
Oh, cette scène, c'est, bah oui, effectivement, ils ont toute la vue de San Francisco qui est complètement détruite. Donc voilà, donc là c'est un peu too much. Je trouve qu'il y en a qui arrivent à doser, bien sûr, que c'est, il y en a qui sont too much, mais franchement, je trouve qu'ils se valent. Moi, Volcano,
ouais,
j'aime
ouais,
bien,
ouais.
Tu vois.
Ok,
Volcano.
Ok, très bien. Il faut des amoureux de Volcano, c'est bien.
Voilà.
Bon, on m'a dit qu'il fallait que je regarde The Core, qui est un film sorti, je crois, en 2002 ou 2003, où des scientifiques, en fait, le cœur de la planète Terre s'éteint. Se refroidit et du coup la Terre va mourir. Et du coup, il mandate une émission de scientifiques pour plonger dans les profondeurs de la Terre et mettre une bombe nucléaire pour revitaliser le cœur de la Terre. Voilà. Ça s'appelle The Core.
Eh ben, écoute,
ça
je
a l'air
pas.
Con comme une brique, mais ça a l'air formidable en même temps. Et est-ce que c'est pas ça qu'on demande un peu un disaster movie finalement?
Ah, bah là, moi, tu m'as décrit un scénario, je vais regarder le
mais
film.
Je,
franchement.
Il faut regarder The Core.
Bien sûr.
Bref, je regarderai, je te dirai ce que j'en ai pensé, mais en tout cas, c'était assez formidable. Et bah, très bien, parfait. En tout cas, voilà, 97 et les années 90 en général, c'est une grosse année de volcans, de séismes, de tsunamis, etc., etc. Et le Pic de Dante et Volcano se mènent une lutte sans merci au box-office. Voilà, c'est aussi ça, l'année cinéma 97. Voilà qui conclut parfaitement ce second thème de notre émission. On s'en va sans plus tarder vers le troisième et dernier thème de cette année 97. Voilà, donc cette chanson, voilà, c'est très dérangeant parce que du coup, pendant toute la pause, on était en train de parler de Disaster Movie et d'Aerosmith et de Armageddon et de comment on a pleuré devant la mort de Bruce Willis dans Armageddon. Alors
oui.
Qu'en fait, ce qu'on vient d'écouter, c'est pas du tout Armageddon, c'est la musique du Cinquième Élément et celle d'Eric Serra, effectivement. Cinquième Élément qui va être au cœur de notre troisième et dernier thème, puisque c'est un film qui t'est cher, Flore Maquin. Tu adores ce film et c'est un film important aussi de cette année 97. Pour rappel, c'est donc réalisé par Luc Besson avec Bruce Willis, Mila Jovovich, Chris Tucker et moult autres acteurs, et ça raconte l'histoire au 23e siècle d'une boule de feu, encore un péril véritablement, une boule de feu qui fonce sur la Terre. Pour l'arrêter, il faut retrouver le cinquième élément, l'être suprême, qui, associé aux quatre autres éléments vitaux, peut seul repousser le mal. Voilà, ça a l'air assez fou, effectivement, comme ça, sur le papier. Alors, quand on a parlé de 97, et tu m'as dit, bah moi j'ai ces films-là qui sont importants, le cinquième élément était quand même assez naturellement dans ta liste. Quelle est ton histoire personnelle avec le cinquième élément?
C'est une bonne question, mais je sais que bon, je l'ai vu quand j'étais petite, et il y a un truc très très esthétique dans ce film. Pour moi c'est une peinture presque, tout a été pensé, on a l'impression que Luc Besson a dit, non mais moi je veux que tout soit décalé, je veux que les tenues soient décalées, je veux que les lieux, les dialogues, voilà. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une recherche esthétique poussée, même les visages, enfin les monstres, tout ça, la diva, enfin il y a vraiment la musique aussi qui est très métallique, il y a beaucoup de bruit de métal, très futuriste, enfin j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu cette volonté, parce que l'histoire on peut être simple, voilà, c'est le bien contre le mal, en gros. Voilà, et ça, on a l'impression qu'il a voulu s'amuser en disant oh, attends, on va tout mettre plein de trucs, là, ça, on va se régaler, et puis les voitures futuristes, et puis regarde, moi j'adore Star Wars, donc le vaisseau. Enfin, on sent qu'il y a plein d'influences par rapport à d'anciens films de science-fiction. Donc je sais pas, je trouve que ça m'a parlé esthétiquement. Je pense
que qu'à 7 ans au cinéma, c'est quelque chose qui a pu te dire, mais en fait, qui a pu te frapper à 7 ans lors de ta vision du film.
Ouais, je pense que c'est l'esthétique, ouais. Je pense que les costumes et tout, il y a un... c'est très fantaisiste un peu. Enfin, on n'est pas sur quelque chose de sobre comme on peut voir habituellement. Je pense que c'est ça, moi, qui m'a parlé. C'est l'esthétique, ouais.
Ouais, c'est effectivement assez unique. Et là, on a parlé de ta première vision, de ton premier choc du film. On est 25 ans plus tard. Toi, comment ce film-là, ton rapport avec ce film, a-t-il évolué avec les années? Tu le revois encore avec plaisir? C'est quelque chose que tu revois tous les ans? C'est quelque chose que tu regardes avec peut-être un peu de second degré parce que ça a un peu mal vieilli, ou...
Oui, un peu de second degré parce que forcément j'ai mûri, et mes yeux aussi, on va dire. Enfin, mes yeux d'enfant, maintenant on repère plus de choses, mais je sais pas, il est ancré dans le temps, il a des années 90, donc il y a plus d'indulgence parce que voilà, il y a plein de films qu'on vieillit. Hein. Je dirais pas qu'il a mal vieilli, je dirais juste qu'il a vieilli.
Non,
voilà,
il a vieilli. Il se tient plutôt bien, effectivement.
Ouais, hein. Voilà. Et puis ça va avec le style, je dirais, même si vieillit esthétiquement ou même les effets spéciaux, je trouve que ça va avec le style justement qu'il a voulu donner. Il vieillit très bien quand même, hein. Enfin, ouais. Je l'ai revu récemment, il vieillit très bien.
Ouais, hein. Il est quand même quali, effectivement. Ouais. Et toi, en plus, t'es une artiste, donc t'as cette sensibilité aussi. Et puis, comme tu l'as dit, dans le film, tout est un objet un petit peu d'art, puisque les costumes sont complètement fous, costumes signés Jean-Paul Gaultier, la musique d'Eric Serra est, comme tu l'as dit, assez atypique, l'univers c'est un mélange de Blade Runner, de Moebius, il y a plein de choses. Toi, c'est Cinquième Élément a pu t'inspirer, je sais que t'as fait un portrait de Lilou Dallas Multipass. toi, quand tu t'es dit je vais te parler du Cinquième Élément, pourquoi t'as choisi de faire forcément Lilou? C'est ta première idée? T'en as eu d'autres?
Non, mais c'est moi, ce qui m'inspire, c'est beaucoup les photos que je trouve sur les films ou des moments. Donc du coup, c'est vrai que je me rappelle de ce moment où elle est devant la télé, la petite télé, et qu'elle apprend en fait le monde, en gros, l'histoire du monde, et qu'elle commence à se rendre compte que en fait l'homme crée aussi le mal. Et j'avais beaucoup aimé cette scène-là, donc c'est pour ça que je l'avais traduite comme ça. Il y a plein de choses. Hein. J'adore Chris Tucker dedans. Enfin, il y avait beaucoup de choses iconiques. Hein. Pour moi, il y a des personnages cultes, des moments cultes, il y a des objets cultes, il y a des sons cultes. Il y a vraiment même la musique de Lilou. Enfin, tout est travaillé de sorte à ce que tout soit mémorable. Chaque élément soit mémorable. Sans mes jeux de mots. Oh là là, je suis en forme ce soir.
Et c'est vrai que du coup, t'as choisi quand même une scène qui est particulière, puisqu'elle est très chargée émotionnellement de Lilou en larmes devant son écran, qui découvre l'équivalent de Wikipédia, j'imagine.
Ouais.
Mais en vidéo. Alors, pour mettre un peu de contexte, c'est un film, pourquoi aussi on en parle? C'est un film, donc, certes en anglais, mais c'est une production 100% française, 100% par Gaumont à l'époque. 90 millions d'euros de budget. À l'époque, c'est le film européen le plus cher de l'histoire. Au final, c'est un film qui va marcher. Il fera 7,7 millions de spectateurs en France pour un box-office mondial de 264 millions de dollars dans le monde. Donc, il se remboursera assez facilement. Et au-delà de tout ça, c'est un film qui a quand même un statut culte assez fort, parce que nous, c'est un film français, donc on connaît l'histoire, etc. Donc on a un attachement peut-être à ce film particulier, mais même pour les Américains, ce film de français, certes en anglais, a un statut culte assez fort. Lilou Dallas Multipass, Corbin Dallas, Chris Tucker, t'as quand même la musique comme ça qu'on a entendue là est assez dingue. Je trouve que c'est un film qui a peut-être une crise d'identité, c'est-à-dire que c'est un film très américain par plein d'aspects, et en même temps... français. Moi, la question, c'est est-ce que Le Cinquième Élément est-il vraiment, selon toi, un film français?
C'est quoi un film français? C'est quoi un film américain?
Et voilà, là, voilà, tu m'as renvoyé dans les cordes, c'est formidable. C'est quoi un film français?
Je pense qu'on est plus habitué, effectivement, pour les films américains, de grands spectacles, et qu'on est c'est pas forcément des films grands spectacles français. Je trouve que c'est plus des films beaucoup plus réalistes. Après, c'est ma vision des choses, hein. Attention, l'art, c'est subjectif. Je trouve que les films français sont plus dans la réalité, alors que là, ça dénote complètement, effectivement, du cinéma français habituel. Donc,
pour rebondir sur la question que je pose, qui est une question un petit peu, effectivement, de petit malin, évidemment, c'est, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'un film français, c'est des termes qui sont un peu binaires, mais je dis ça parce que je sais que, évidemment, tu as des acteurs américains, mais beaucoup de techniciens, on a dit Jean-Paul Gaultier, Eric Serra, même le montage, même le Thierry Arbogast à la photo, beaucoup de techniciens et sont français sur ce film-là. Et ça fait preuve aussi d'un certain art et d'une certaine qualité de production française qu'on n'a peut-être pas souvent l'occasion de voir. Donc c'est assez fou parce que, comme tu l'as dit, les films français sont plutôt modestes en général. Et là, c'est un film qui, pour le coup, pose les talents français dans des horizons quand même assez, assez rare, c'est assez fou, quoi.
Bah ouais, c'est vrai que le cinéma français n'est pas attendu là-dessus du tout, parce que je pense qu'il y a meilleur dans ce domaine-là, mais c'est vrai que là, on peut produire quelque chose d'assez différent, quand même, et unique, quoi.
Ouais, donc c'est assez dingue qu'il ait vieilli comme ça. Est-ce que toi, t'as une, comme ça, une scène particulière, un moment que t'aimerais bien... que t'aimes en particulier dans le film?
Ah, il y en a plein, franchement il y en a plein.
Là on a parlé de Lilou Dallas qui découvre le monde, mais...
Ah, moi Chris Tucker, je le trouve... Dès que je parle du cinquième élément des amis, c'est tout de suite Chris Tucker, Corben, il arrive Corben, enfin, Super Green, il y a des choses comme ça.
Ah, oui,
qui...
c'est vrai, il arrive.
Quand tu lui demandes de tenir le gun sur la tête du monstre, et qu'il dit bah, s'il bouge, tu tires, ah il a bougé, enfin vraiment il y a... Il y a plein de trucs. C'est un film drôle en plus. Il y a beaucoup d'humour dans ce film, même provenant de Bruce Willis, même de Lilou, tout ça. Il y a plein d'humour, je trouve.
Et Gary Oldman qui est un méchant over the top. Je me souviens d'une scène, il a un espèce d'animal chelou.
Ouais.
Avec une trompe qui bouge comme ça, et puis il a mangé une cerise, je sais pas trop quoi, il s'étouffe.
En train de s'étouffer, il appuie sur tous ses boutons, et du coup, il y a plein de choses qui sortent, notamment son animal de compagnie qui peut rien faire, en fait.
Il voit 5 secondes, mais c'est assez rigolo. Et si demain tu devais faire un autre portrait, autre que Lilou, de 5 éléments, tu ferais qui?
Je ferais qui? Bah, ils sont tous un peu iconiques, quand même. Chris Tucker, même Zorg.
La banane de Chris Tucker, quand même.
Ah ouais, sacré costume, quand même. Enfin, vraiment, je sais pas. Franchement, il y a plein de choses à faire sur ce film. En fait, le plus dur, c'est de choisir. Parce qu'il y a vraiment y a plein de choses qui sont iconiques.
Là, on est 25 ans plus tard. Le film va effectivement fêter ses 25 ans en 2023. Donc il a fêté ses 25 ans en 2022, mais du coup, il est comme ça dans son quart de siècle. Il a un petit peu un frère de sang, on va dire, parce qu'il y a quelques années, il y a eu Valérian, Luc Besson. Toi, c'est un film où tu as retrouvé une sorte de vibe de Cinquième élément, ou comme Titanic, le Cinquième élément, c'était... un esprit unique que t'as retrouvé dans aucun film après.
Mais Valérian, j'ai travaillé dessus, c'est marrant parce que j'ai fait des affiches alternatives à l'époque quand ils faisaient la promo. Donc du coup, j'avais fait une affiche de tous les acteurs, enfin les deux acteurs principaux plus Rihanna. Et il y avait effectivement, parce qu'on m'a donné, on m'a fourni, le film n'était pas sorti à l'époque, on m'avait fourni plein de photos et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ressemble avec ces monstres, avec ces mondes différents. C'est vrai qu'il y a un truc, un peu une patte.
T'as d'autres films comme ça où tu t'es dit, ah ben là, ça me fait penser au Cinquième élément?
Ah non, hein, franchement, je sais pas, c'est tellement particulier.
Ouais.
C'est pour ça que quand je dis que c'est presque un tableau, parce que c'est un tableau un peu pop art, un peu, tu vois, tellement de couleurs, de tenues et tout, t'as un truc vraiment... Donc non, pas forcément, je dirais qu'il a vraiment une patte propre, ce film. Pourtant, c'est un film de science-fiction, on pourrait même le mettre dans le même lot que d'autres, ouais. Tu vois, mais...
Non, le Cinquième élément, tu dirais voilà, que c'est un tableau vraiment unique, une œuvre vraiment à part, comme on l'a vu, comme finalement beaucoup de films de cette année 97, Titanic aussi, c'est des films comme ça un peu à part, qui sont arrivés à cette année-là, qui ont époustouflé, et qui, 25 ans plus tard, on s'en souvient, mais il n'y a pas eu tellement de films équivalents.
Ouais, c'est vrai. Hein,
c'est assez particulier.
Je pense qu'en 90, je sais pas, on a tenté plein de choses. Quand je dis on, oh oui, bien sûr, nous avons tenté plein de choses.
Oui, la France.
La France, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a eu plein de choses et beaucoup de culot, je trouve. Et notamment Cinquième élément. Après, on aime ou on n'aime pas. Il y en a qui n'aiment pas. Mais je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de culot.
Ouais.
Et même, enfin, Bruce Willis.
On peut en parler.
Mais qu'est-ce que je l'adore.
En petit débardeur orange.
Mais, alors déjà, qui lui va très bien, soit dit en passant. Mais je trouve que c'est presque étonnant de le voir là. C'est quoi, ça dénote complètement.
C'est vrai.
De le voir dans ce film-là. Enfin, quand
blond.
En plus, ouais. Son agent lui a dit quoi? Écoute, il y a un film de science-fiction. Tu verras, en fait, il y a le mal et le bien. Enfin, je sais pas comment son agent lui a vendu, mais par rapport à ce qu'il faisait lui juste avant. Bon, il a fait beaucoup de films à ce moment-là, les 12 singes, tout ça. Enfin, il avait quand même un panel de films différents. Mais chose qu'il a arrêté de faire après derrière, je trouve. Mais je trouve que c'est presque étonnant de le voir.
C'est vrai que c'est entre L'Armée des 12 singes et Le Sixième Sens. Quoi. Toi, il y a un côté, il avait genre deux ans avant Sixième Sens, qui va encore envoyer sa carrière dans une autre strate, on va dire.
Ouais, là, je crois que juste après, il y a Armageddon aussi. Enfin, en même temps,
oui, voilà, effectivement, il fait Armageddon la même année ou juste au même moment, quoi, véritablement. Mais ouais, c'est fou. Quoi. Ouais, Bruce Willis, c'est vrai que c'est étonnant. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent... dans ce genre de comme ça d'escapade de science-fiction et puis dans un genre comme ça comique. C'est un bon acteur de comédie, je trouve.
Ah ouais, moi je trouve que c'est vraiment un acteur. Ouais.
Dans ce genre-là. Tu le préfères en acteur comique, ouais?
Je trouve dans tout, parce qu'il met toujours un peu de comédie dans son art, je trouve. Ouais. Il y a toujours des petites touches humoristiques, mais dans Armageddon, enfin, je trouve qu'il y a toujours un peu d'humour et du genre un peu. Bon, Armageddon, bon, c'est beaucoup de tristesse. Mais,
ne revenons pas là-dessus.
Non, parlons plus.
On se dit du mal.
Mais il y a toujours un peu d'humour, mais effectivement, dans Cinquième élément, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, effectivement.
En tout cas, voilà, n'hésitez pas à revoir Le Cinquième élément de Luc Besson, film culte s'il en est. Film comme ça, on l'a vu à la fois très américain dans son style, dans ses acteurs, dans sa langue, mais aussi. aujourd'hui symbole d'une certaine un certain artisanat et des techniciens français à la musique, au montage, à l'image, dans les arts, tu l'as dit. Et ça fait comme ça que tu l'as dit, ce tableau un petit peu unique, cette œuvre unique qui ressemble à aucune autre. Et qu'on aime tant revoir 25 ans après. Voilà qui conclut ce troisième et dernier thème de notre émission sur 1997. On va pas se quitter tout de suite, évidemment, puisqu'on va, comme d'habitude, aller voir nos petites recommandations de fin et nos coups de cœur. C'est parti. Voilà, comme toute fin d'année-lumière, on ne se quitte pas sans vous donner comme ça quelques petits coups de cœur de films qu'on n'a pas pu évoquer dans les trois thèmes dont on a parlé là pendant une heure avec Flore. Toi, Flore, quel est le film dont tu as envie de citer les louanges, ou que tu as envie de recommander aux auditeurs dont on n'a pas parlé ?
Non, j'en ai deux.
Allez, vas-y. Oh là là.
J'ai Volte-face avec John Travolta et Nicolas Cage. Je trouve que c'est un magnifique film. Enfin, je l'adore. Très propre, très ancré années 90. Hein, ouais. Vraiment.
Mais t'as fait une affiche Volte-face ?
Non, non, j'arrive pas.
Alors qu'est-ce que tu attends,
Flore ?
Parce que
je sais pas, parce que je sais pas. C'est un film que j'aime beaucoup. Donc, et puis l'affiche déjà en elle-même, l'affiche de base, c'est Travolta et Cage qui sont séparés en deux et on voit leur visage. Donc c'est une affiche que justement, si j'avais une idée, j'aurais fait ça. Donc bon, Volte-face, c'est vraiment un film moi que j'adore. Je pourrais le regarder, mais je pense que je vais le mater cette semaine. Le fait d'en parler, je pense que du coup.
Ça y est, c'est John Woo. T'as besoin de revoir les scènes. Mais qu'est-ce qui te fascine tant dans Volte-face ?
Je pense qu'il y a le jeune acteur aussi qui est assez bluffant, parce que on s'attache à John Travolta dès le début du film qui a perdu son fils, qui est un policier très sérieux, tout ça, et d'un coup. Donc l'histoire du film, c'est qu'il doit échanger, il doit s'infiltrer dans un chez un méchant, on va dire, et il prend le visage en fait de ce méchant pour pouvoir intégrer, son clan. Et donc il devient Nicolas Cage. En gros, Nicolas Cage, du coup, gros méchant, a compris le stratagème et fait la même chose avec Travolta. Donc du coup, on se retrouve dans le corps de Travolta. Donc en fait, on switch dès le début du film avec un acteur qu'on adore, qui est super sympa, qui est gentil et tout, et en fait c'est un gros pourri, et inversement avec l'acteur qui est vraiment ignoble et qui parle mal et qui devient gentil. Donc il y a vraiment ce switch qui est fait tout au long du film, et je trouve ça assez fascinant. Et
c'est assez dérangeant quand tu es spectateur, tu commences effectivement avec Travolta qui est gentil, et dans ta tête après tu dois switcher sur
Et je regrette un truc, c'est que j'étais au Festival de Cannes à un moment donné, et il y avait une masterclass qui était animée par John Travolta. Et donc il a parlé un peu de tous ses films, et à la fin on pouvait lui poser une question. Et je regrette, j'aurais dû lui dire « John, qu'as-tu préféré, jouer le gentil ou jouer le méchant ?» J'aurais adoré qu'il parle de ça, de Volte-face et tout, et personne n'a posé de question dessus. Évidemment, je suis tellement timide que j'ai pas voulu. Mais j'aurais aimé lui poser la question pour savoir, parce que c'est fou quand même pour un acteur.
Est-ce que t'as préféré jouer ? Ouais, c'est vrai que John Travolta, en vrai, en méchant...
Mais il était bon en plus,
il était bon, et puis c'est pas un rôle dans lequel on le voit souvent, il est souvent quand même dans un rôle plutôt gentil.
Oui, c'est vrai que c'est pas son registre. Et je le trouve particulièrement, et Nicolas Cage aussi, je pense qu'il était au top de son art aussi, Nicolas Cage
là en 97, c'est les ailes de l'enfer aussi, il y a eu The Rock juste l'année d'avant, enfin c'est Nicolas Cage prime, un peu taré, mais genre il part dans les tours, il y a des scènes folles, mais ouais, il fait The Rock, les ailes de l'enfer et Volte-face en 2 ans, c'est bon, il a gagné quoi.
Ah bah ouais. Et puis c'est des films, c'est fait partie de mes films préférés, hein, The Rock et tout, c'est vraiment partie de mes films préférés. Donc
Volte-face de John Woo. Est-ce que tu me dis que tu avais un deuxième film également à conseiller ?
Alors c'est Starship Troopers.
Ah oui.
Ah oui. Ah là, vous avez tous les deux penché la tête. Ah bah hein, oui. Là, franchement.
Alors on s'excuse auprès d'auditeurs, il y avait tellement de films dans cette année 97, on a dû en choisir. On aurait pu faire aussi un thème sur Starship Troopers, mais on a dû choisir véritablement. Pourquoi Starship Troopers
Parce qu'il y a tout ce que j'aime dedans. Il y a un côté un peu loufoque sur rejoignez-nous, c'est la guerre, mais ça se passe dans l'espace. Donc ça, j'aime beaucoup les films de science-fiction. Il y a du gore, bien sûr. Comment peut-on faire
Ah,
Verhoeven, moi je suis fan.
Total Recall, etc. Donc évidemment, c'est gore, évidemment, c'est particulier.
Ah ouais, Verhoeven, moi j'adore. Toutes ces poches d'hémoglobine qui explosent, les trucs, il y a du sang partout. Même parfois, des fois, injustifié, mais c'est pas grave. Ouais. Mais Starship Troopers, c'est vrai que moi, dès qu'il y a des monstres, dès qu'il y a du gore, dès qu'il y a la science-fiction, enfin pour moi il y a un bon mélange là qui est fait, et c'est vrai que ce film là, bon, je ne conseillerais pas aux gens sensibles, mais
mais donc pour rappeler, ouais, c'est quoi, c'est une histoire d'une bande d'amis qui il y en a certains qui vont être engagés dans l'armée pour combattre une espèce extraterrestre aux confins de la galaxie.
Parce qu'en plus, ils attaquent, en fait. C'est les parasites, justement, sur la planète, ont décidé d'attaquer aussi la planète. Et du coup, il faut qu'ils soient envoyés pour pouvoir défendre leur planète à eux. Et du coup, effectivement, ils font sur les planètes, c'est trouver la mère ou le père, je ne sais pas, il est peut-être non-genré.
Oh, parasite. La tronche du truc.
Ah ouais, non, c'est pas terrible. Donc voilà, donc c'est un peu une histoire facile, on va dire, mais qui, je trouve que c'est bien fait. En plus, il vit super bien le film.
Oui, et puis quand on y regarde de plus près, c'est le genre de film. Moi, je sais que je l'avais vu quand j'étais jeune, et à l'époque, c'était tu regardes ça pour les grosses créatures, tu regardes ça pour effectivement l'armée, les scènes un peu impressionnantes, les scènes d'espace et tout ça. Mais en fait, quand tu vieillis, tu te rends compte que le film est une satire. Ouverte de avec ses plans très on va dire nazis des gens qui disent j'ai fait mon truc, rejoignez-nous,
enfin rejoignez-nous.
T'as un côté quand même où tu sens que Paul Verhoeven il est là genre évidemment je me moque un peu, enfin je me moque pas, c'est vraiment une satire de comment les gens sont endoctrinés, comment les gens rallient comme ça des causes qui sont parfois décérébrées avec ces militaires qui mènent toute une génération à la mort. Mais c'est vrai que du coup entre la première vision que t'as quand t'es enfant où t'es là et la vision 15 ans plus tard, c'est le genre de film où tu fais ah j'avais pas saisi ça. Ok.
Bah oui, je rejoins ce que tu dis là, quand ils découvrent des gens qui sont fait aspirer le cerveau. Enfin, ça rejoint pas parfaitement ce que... Non, mais c'est pas dans le film, c'est bien. Mais je veux dire, enfin, ça rejoint justement ce que tu dis. C'est que là, il y a des gens qui se font endoctriner, qui deviennent un peu stupides parce qu'on leur dit de faire ce qu'il faut faire comme ça, de les guider dans des trucs qui... les endoctriner, on va dire. Et je trouve que justement, la métaphore du... Enfin, métaphore non, parce que là, c'est vraiment littéralement, il aspire le cerveau, je trouve que ça rejoint ce que tu dis. Quoi.
Ça, cette critique de l'impérialisme américain et de, voilà, de ce côté très américain, c'est quand même Paul Verhoeven qui est un Hollandais qui fait son cinquième film ou quatrième film aux États-Unis et qui... Et qui c'est drôle, et du coup il fait un film très américain mais en même temps qui critique, donc c'est un film, voilà, si vous l'avez pas vu, Starship Troopers, plus intéressant qu'il n'y paraît, et un des grands films de 97. Merci en tout cas. Donc Volteface, Starship Troopers, vous êtes quoi vous amuser avec ces recommandations de Flore. De mon côté, je vais recommander deux films. Je vais recommander quand même un film que j'ai revu récemment et il est difficile de ne pas le citer, c'est Will Hunting de Gus Van Sant avec Matt Damon et Robin Williams, que j'ai revu. On pourrait penser que Will Hunting, évidemment, c'est peut-être le premier film auquel on pense quand on voit 97, mais en le revoyant, en fait, c'est un film qui est beaucoup plus fin et poétique que j'avais en tête. En fait, quand j'y repensais, j'étais là, ouais, Will Hunting, c'est du bon sentiment, c'est très hollywoodien, c'est assez plat, etc., etc. Et je l'ai revu récemment. Et en fait, c'est un vrai film de Gus Van Sant. C'est-à-dire Gus Van Sant, t'as ce côté jeunesse désabusée, ma place dans ce monde, et t'as vraiment ce côté un peu grunge et ce côté un peu à la volée. Et t'as des grandes scènes dans Will Hunting, un peu moins produites, on va dire, où tu sens qu'il a juste pris sa caméra et qu'il allait filmer comme ça dans la rue, ou Matt Damon dans un métro, ou Matt Damon et Casey Affleck dans une voiture avec Ben Affleck. Donc c'est un film comme ça qui est plus poétique qu'il n'y paraît. Donc voilà, Will Hunting. Mais mon film dont j'ai envie de parler absolument, c'est La Souris de Gore Verbinski, le premier long métrage de Gore Verbinski, qui est donc le réalisateur de Pirates des Caraïbes, et qui fait donc pour son premier film un film autour d'une souris. Et donc l'histoire, c'est deux héritiers maladroits qui sont déterminés à débarrasser leur maison antique d'une souris qui est, elle, bien décidée à rester là où elle est. Donc c'est un film de Gore Verbinski avec Nathan Lane, Lee Evans et Christopher Walken, entre autres. Et je vais le décrire comme ça. La Souris, c'est un mélange de Ratatouille, Maman j'ai raté l'avion, Laurel et Hardy et Die Hard, avec une pointe de Tim Burton et de Barry Sonnenfeld. Donc c'est une espèce de mélange de séquences hilarantes, il y a mille idées de mise en scène, t'as des plans où la caméra elle est dans les murs parce que t'es dans les yeux de la souris et elle monte et elle descend, et c'est genre 30 secondes où tu te battes dans les murs de la maison. T'as des mélanges d'animatronics signés Stan Winston, donc le mec qui a fait Terminator et Jurassic Park, et de CGI plutôt bien léché. T'as des scènes entièrement burlesques à la Laurel et Hardy, c'est-à-dire qu'à un moment donné, juste pour vous dire, vous avez donc les deux frangins un peu débiles veulent piéger la souris, et donc ils mettent genre 150 tapettes à souris sur le sol, et en fait quand ils veulent sortir par la porte de derrière, la porte est coincée et ils se retrouvent avec une pièce remplie de tapettes à souris où ils sont obligés de rester sur place. Et en fait, je ne vous dis pas la suite, mais c'est assez formidable. Donc voilà, moi c'est un film de cœur qui est un petit peu méconnu mais que j'aime beaucoup, et surtout c'est un bonheur de film des 90s, comme ça, avec ce petit esprit 90s un peu loufoque, un peu fou, un peu régressif, et ne serait-ce que pour un Christopher Walken qui est un chasseur de souris complètement taré, ça vaut le détour, parce que dedans il y a Christopher Walken qui arrive et qui goûte les crottes de souris, il a un peu de diabète, genre des trucs complètement fous. Enfin voilà, c'est ma reco, La Souris de Gore Verbinski. l'un des meilleurs films de 97 pour moi. Voilà, vous avez de quoi regarder. Voilà qui conclut cette émission d'Année Lumière consacrée à 1997. Merci à mon invité, Flore Maquin. Merci beaucoup, Flore.
Ouais, merci à toi de m'avoir invité.
Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé ton cinéma avec nous. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio, et Antoine qui est là parmi nous dans le studio de la Villette à Paris. Merci également enfin à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de partager l'épisode et de suivre le compte Twitter d'Année Lumière. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.